au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Ici Armand Dubois, bonjour à tous. Si comme moi vous aimez la musique, je vous promets une heure délectable en compagnie d'un grand pianiste canadien que l'on considère comme l'un des meilleurs virtuoses romantiques de la scène actuelle, un véritable ambassadeur de la musique. Nommé en 2005 officier de l'Ordre du Canada, il parcourt le monde, jouant avec les meilleurs orchestres. On a pu l'entendre avec l'Orchestre symphonique de Montréal, bien sûr, mais aussi le Chicago Symphony, l'Orchestre philharmonique tchèque au Carnegie Hall et au Kennedy Center, le Minnesota Orchestra sous la direction de Sir Neville Mariner et en tournée européenne avec le Toronto Symphony sous Andrew Davis ainsi qu'avec le Royal Philharmonic sous la direction du regretté Sir Yehudi Menuhin lors de leur vaste tournée nord-américaine. Il fut également soliste en Chine. Il a donné des récitals en Extrême-Orient et en Australie. Avec nous, avec grand plaisir, nous accueillons M. André Laplante. Bonjour.
Bonjour.
C'est une carrière formidable quand on regarde le parcours à travers le monde.
Oui, en effet, j'ai pris l'avion assez souvent, comme on dit. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une carrière très intéressante, très variée, de jouer avec des musiciens incroyables, des ensembles incroyables. Ça pendant des années. Je le fais encore. Je continue, puis disons que j'espère continuer assez longtemps. Il y a une chose qui est encourageante, en tout cas, c'est que quand on regarde la vie de bien des pianistes,
oui.
Il y en a plusieurs quand même qui sont morts quand même assez vieux. Vous savez, qui ont joué très longtemps. Oui, ben c'est ça, je trouve ça encourageant. Oui. Je trouve que, de toute façon, toute l'affaire est trop courte, c'est évident.
Oui.
Mais j'ai quand même eu la chance de collaborer avec des musiciens incroyables, de faire la musique de chambre, avec Menuhin aussi. On a fait des soirées de musique de chambre, des soirées de sonates, on a fait du trio.
Menuhin, ça fait déjà, je pense, 10 ans qu'il est décédé.
Oui, à peu près, oui. Je me rappelle pas exactement la date, mais c'est dans les années 90.
Oui.
Puis on a eu la chance, en fait, c'est ça. Puis en faisant de la musique de chambre, évidemment, c'est une expérience qui est plus intime, si vous voulez. C'est pas comme jouer avec un orchestre. Mais avec quelqu'un comme ça, faire de la musique de chambre, c'est quelque chose de fantastique. Parce qu'il était... C'est un bonhomme qui était très généreux de tous les points de vue. Puis très généreux de son temps aussi. Alors, l'après-midi, des fois, on se reposait un peu, mais il y avait toujours moyen, des fois, je lui demandais est-ce que... Il nous demandait si on voulait jouer pour lui ou quelque chose.
Puis, ça a été un personnage marquant pour
vous. Oui, très, très marquant. Dès la première répétition, d'ailleurs, on avait le premier programme qu'on a eu. C'est un programme de sonate, piano-violon, puis il y avait, c'est un programme énorme. On avait la sonate en do mineur de Beethoven, sonate de Franck, puis la troisième sonate de Brahms. Puis on avait très peu de répétitions. Il était arrivé avec son... Je me rappellerai toujours qu'il était arrivé chez un de mes amis à New York avec sa double caisse. Il y avait un Guarneri, puis un... il y avait un Dagesu, puis un Stradivarius.
Oui.
Puis il m'a demandé lequel je devrais prendre pour le Beethoven. Je savais pas trop, parce que j'avais une légende devant moi, puis je lui disais... Ben, écoutez, je ne le sais pas vraiment, vraiment. Fait que bon,
on a peur d'être présomptueux à ce moment-là,
non,
n'est-ce pas?
Mais j'avais trouvé, mais j'étais quand même un peu sur le choc, vous savez, ouais. De jouer avec quelqu'un comme ça.
Bien sûr.
Puis il m'a regardé après le premier mouvement de la sonate de Beethoven, puis ça avait quand même bien été. Puis il dit, tes idées musicales sont vraiment très, très, très fortes, puis très bonnes. Puis d'ailleurs, il dit, je pourrais même dire, elles sont aussi bonnes que les miennes. Puis appelle-moi Yehudi. C'est ce qu'il m'a dit après le premier mouvement. Puis j'ai trouvé ça vraiment, ça a été la claque, si vous voulez, la plus gentille que
Comme
j'ai eue.
Comme on dit, la bonne tape sur
la bonne tape, exactement, la plus gentille. Puis ensuite, j'ai dit, mon Dieu, merci, tu sais, c'est bien, ça va aider les choses, on va devenir plus, on va devenir un peu plus vrai. Puis effectivement, on est resté bons amis. Ça a été dommage, évidemment. Il était déjà un peu vieux à ce moment-là, puis il jouait pas quand même, il jouait pas comme dans son meilleur, mais on voyait que la tête ça marchait, je veux dire, c'est les idées musicales qu'il avait, puis la simplicité d'approche aussi, mm-hmm. puis ça
c'est curieux, ce ne l'est pas à la fois, vous parlez avec grandiloquence d'un violoniste alors que vous êtes pianiste. Mm. J'imagine que les pianistes font rarement l'éloge d'autres pianistes.
Oh non, mais pas du tout, pas vous du savez. Tout. On apprend, mais non, je veux dire, mais écoutez, ça dépend des gens. Pour moi, on peut apprendre devenir de meilleurs musiciens, par exemple, à cause d'un acteur, si vous voulez. On peut devenir un meilleur musicien parce qu'on va au ballet. Moi, j'allais au ballet quand j'ai vécu 20 ans à New York, à Manhattan, puis je suis allé à l'opéra beaucoup, puis je suis allé au ballet. Je suis allé à tous les événements que je pouvais aller, que je trouvais intéressants. Puis j'ai appris énormément comme ça, en allant au théâtre, en allant, vous savez.
Alors, on va pouvoir revenir sur ces aspects-là, mais vous venez de publier ou de diffuser un nouvel album mm-hmm. consacré à Chopin.
Oui.
Et nous allons avoir le plaisir d'entendre de nombreux extraits. Mm-hmm. La première pièce que vous nous présentez, c'est un nocturne. Mm-hmm. Un mot sur cette pièce?
C'est une œuvre quand même relativement jeune chez Chopin, c'est opus 15. C'est une œuvre, je pense, qui est très contrastante, premièrement. Il y a une première partie qui est très chantante, puis une deuxième partie qui est très dramatique. Puis qui fait un peu, c'est drôle, qui fait un peu Beethoven. Puis je dis ça je veux pas agacer M. Chopin, mais Chopin n'aimait pas particulièrement Beethoven. Mais il y avait... il y a quelque chose que j'ai trouvé dans ce nocturne-là qui est, c'est tellement, les caractères sont tellement contrastants que c'est un peu la turbulence. On reconnaît un peu la turbulence beethovenienne dans la deuxième partie.
Alors,
mais évidemment, la mélodie est très Chopin.
On écoute ce nocturne en fa majeur que vous interprétez.
Thank you.
Alors, vous disiez que ça faisait Beethoven. Vous savez que...
Ça fait un peu, oui, je trouve.
Chopin a écrit Bach. Bach est un astronome qui découvre les plus merveilleuses étoiles. Beethoven se mesure à l'univers. Moi, je ne cherche qu'à exprimer l'âme et le cœur de l'homme. Ça ressemble beaucoup à ce que vous ressentez quand vous jouez Chopin.
Oui, qui avait dit ça?
Frédéric Chopin.
C'est lui, c'est lui-même qui avait dit ça. Oui, non, mais qui se mesure à l'univers, absolument, oui.
Monsieur André Laplante, si on partait, on revenait en arrière, comment vous est venue cette idée, un jour, de faire carrière? Parce que j'imagine qu'on se met au piano très jeune, d'abord.
Oui, j'ai commencé à 6 ans, oui. Écoutez, pour moi, pour être bien franc, vous savez, j'ai été chanceux, en fait, parce que mes parents avaient acheté un piano. J'ai une sœur qui est 2 ans plus âgée que moi. Puis le piano avait été acheté pour elle, parce que c'était bien à la mode d'avoir une petite fille avec des rubans jaunes ou bleus ou roses dans les cheveux qui jouait du piano, puis c'était donc cute. Puis bon, il y avait toute cette histoire-là, mais elle, ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais quand moi, j'ai vu arriver l'instrument, par exemple, j'étais complètement fou. Puis,
ça vous a fasciné tout de suite.
J'ai été pris tout de suite. En fait, je jouais pas des notes, mais je me mettais debout sur mes pieds, puis je jouais des accords. C'était vraiment une expérience comme tout à fait organique.
Comme disait Mozart, les notes qui s'aiment.
Oui.
Jouiez les notes qui s'aiment.
Oui, oui. Ben, c'est ça, mais ça a été comme un attachement quasiment organique à l'instrument tout de suite. Puis j'ai supplié mes parents, évidemment, tu sais, de me laisser prendre des leçons, puis tout ça. Alors, ils ont pensé que quand ça fera 1 an qu'il fait des gammes, il va être tanné, puis il va s'y... Mais vraiment pas. Oui, puis à ce moment-là, j'ai été chanceux dans le sens que j'ai jamais eu de choix à faire, vraiment.
Ça s'est imposé naturellement.
Ça s'est fait comme ça, puis je savais déjà à 6 ans que je voulais devenir musicien, que je voulais être dans ce domaine-là au moins. Puis en plus, si vous voulez, j'ai été quand même... j'ai eu la chance de jouer en plus, puis d'évoluer en communiquant la musique au public. Alors, je trouve que dans tout ça, j'ai été quand même chanceux.
Alors, communiquons encore cette musique, une œuvre très belle, la sonate numéro 2 en si bémol mineur, opus 35, que l'on retrouve également sur cet album que vous venez tout juste de diffuser. C'est votre tout nouvel album. Alors, on vous écoute interpréter cette œuvre.
Merci. Thank you.
Que peut-on dire de cette sonate?
Ah, mon Dieu, il y a beaucoup, 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 beaucoup à dire. Ben, vous savez, c'est une sonate qui est, premièrement, qui est incroyablement bien construite, avec un métier assez, assez fabuleux de d'architecte, si vous voulez. Mais c'est le caractère, évidemment, c'est le souffle. Vous savez, Chopin a toujours été, dans sa vie, il l'avait admis lui-même, il avait peur, hein, il avait peur de la mort beaucoup. Il était très obsédé, par ça. Puis il avait dit, à un moment donné, à quelqu'un, il dit, quand je vais mourir, il dit, il faut m'arracher le cœur pour être sûr que je suis effectivement décédé. Pardon. Alors, il y avait une espèce d'obsession comme ça.
Mais c'est pas le seul qui avait peur de la mort.
Non, il y en avait.
Je pense à Rubinstein, qui a dit un jour, « Je me suis habitué à la mort. Un pianiste, c'est un homme déguisé en croque-mort, avec en face de lui, constamment, son piano qui ressemble à un corbillard.
Rubinstein
avait dit ça. » Arthur Rubinstein, oui.
Mon Dieu. Ça, je savais pas qu'il y avait... Il en a dit des colossales, mais celle-là, je la connaissais pas. Ben, en fait, écoutez, on peut toujours... avoir une idée comme ça, parce que finalement, c'est vrai qu'on passe plusieurs heures à travailler puis avoir le piano.
Mais en fait, c'est probablement cela qui s'est traduit, M. Laplante, c'est que vous devez passer un nombre d'heures incalculable
à travailler. Ouais.
Et vous êtes seul face à ce grand instrument.
Non, c'est un instrument isolant. Oui. Effectivement, c'est l'instrument le plus isolant, probablement. Mais pour revenir juste brièvement à Chopin, tout à l'heure, juste pour finir l'idée, c'est qu'il était très obsédé. Puis je pense que cette sonate-là démontre ça beaucoup. Évidemment, si bémol mineur, c'est la sonate avec la marche funèbre, mm-hmm. qui est l'âme, si vous voulez, de la sonate. Alors, tout va vers là. Là, il y a un premier mouvement qui est à bout de souffle tout le temps, qui est une anxiété incroyable là-dedans, un scherzo qui a quand même un côté qui répond pas à la définition de scherzo, ce qui veut dire un jeu en italien. C'est pas ça, c'est très, très, très dramatique. Puis il y a le dernier, il y a la marche funèbre elle-même, puis aussi il y a le dernier mouvement qui représente, selon les mots de Chopin, qui représente le vent sur les tombes.
Alors on revient l'idée de la mort.
On revient tout le temps à ça. Alors c'est une sonate qui est imprégnée de cette idée-là.
On va sortir un peu de la période romantique de Chopin. On va revenir cette fois au 17e siècle pour aller vers une œuvre vocale, si on peut dire. Vous savez que c'est un compositeur qui n'est peut-être pas très connu, Adam Michna. On le situe à peu près vers 1610, qui descendait d'une noble famille de chevaliers portant le titre d'Otradovice. Il est le fils du burgrave du château de Jindřichův-Hradec, lui-même organiste de cette ville de Tchécoslovaquie. On a choisi une œuvre pour vous, interprétée par Karina Gauvin. C'est la Canzona la Catarina à deux de Tarquino Mirula, et non pas Michna, je m'excuse. Michna reviendra peut-être un peu plus tard. Écoutons d'abord cette canzone et on vous la dédie pour terminer ce premier bloc.
C'est gentil, merci.